France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour en Savoie pour les carnets de campagne. Les épisodes de la semaine sont disponibles en podcast, bien sûr, si vous les avez manqués. Au programme aujourd'hui, la chasse aux déchets en montagne. L'association Mountain Riders vise une montagne sans déchets sauvages en 2030, on va en parler. Mais d'abord, une initiative nationale, les hébergeuses solidaires. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Octobre Rose nous offre l'occasion de mettre en valeur une initiative remarquable, les hébergeuses solidaires, association qui propose des moments de pause et d'évasion aux femmes qui se battent contre un cancer. Bonjour Maïté Belair.
Bonjour à vous.
Vous êtes la fondatrice de cette association et c'est justement Octobre Rose qui a été le point de départ de votre initiative. Vous nous racontez ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'idée, elle est apparue pour la toute première fois pendant Octobre Rose de l'année 2023. Moi, j'étais alors en plein parcours cancer et j'avais l'envie à l'époque de pouvoir passer un moment avec des femmes qui vivaient la même chose que moi. Et comme je suis propriétaire de gîte, j'avais publié sur les réseaux sociaux un petit post qui invitait des femmes atteintes de cancer à se retrouver dans mon gîte pour passer un week-end ensemble. Donc l'idée a émergé de là et en fait j'ai eu Lucille qui tient des chambres d'hôtes en Lot-et-Garonne qui a vu passer mon post sur Instagram et qui m'a contactée en me disant qu'elle trouvait cette idée super. On a échangé ensemble, elle a appris que moi-même j'étais en parcours cancer, que je n'avais pas arrêté mon activité pour des questions financières parce que j'ai été diagnostiquée 3 mois après m'être installée en auto-entrepreneuse et je ne pouvais pas arrêter sinon je mettais la famille dans le rouge. Et Lucille en fait me dit « Mais tu sais, c'est important aussi que tu prennes du repos. Quand tu veux, tu viens dans mes chambres d'hôtes, je t'offre une nuit. » Donc on ne se connaissait pas, j'ai trouvé ça vraiment magique en fait, qu'elle me propose de passer une nuit de repos chez elle. Et j'ai gardé cette idée en tête. À l'époque, j'étais dans le dur du parcours, donc j'ai attendu d'avoir sorti la tête de l'eau. Et l'année suivante, donc pour Octobre Rose 2024, j'ai contacté Lucille qui finalement était devenue une amie parce qu'on était restés en contact. Et je lui ai dit, je pense que voilà, moi je proposais mes gîtes, toi tu m'offres une nuit. Je lui ai dit, je suis persuadée qu'il y a plein d'hébergements qui seraient prêts à faire la même chose. Du coup, octobre 2024, on a lancé sur Instagram un appel à la solidarité sur le projet des hébergeuses solidaires. Alors, en toute honnêteté, on s'attendait à avoir quelques réponses et à préparer un petit fichier qu'on transmettrait aux hôpitaux de notre région. Sauf qu'en fait, en 2 semaines, on a eu un engouement extraordinaire autour de cette publication et on a 80 hébergements partout en France qui nous ont répondu en disant « On trouve votre initiative géniale et nous, on aimerait participer ».
Le principe, c'est que l'hébergement est gratuit ?
Alors, le principe, c'est que chaque hébergement offre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Voilà. On est sur des petites structures touristiques qui sont soit une activité principale, soit une activité secondaire. Il y en a qui ont un autre métier à côté, mais ça reste une source de revenus. Donc, voilà, on offre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Nous, dans notre asso, on a plusieurs principes. Le premier, c'est qu'on veut que ce soit gratuit pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'adhésion, ni pour les hébergements qui s'inscrivent, ni pour les femmes qui veulent bénéficier des séjours. Et en fait, chaque hébergement choisit son cadeau. Il y en a qui offrent des nuits gratuites, il y en a qui offrent des remises sur séjour, il y en a qui font les deux d'ailleurs. Il y en a qui offrent des prestations complémentaires, ça peut être le repas en table d'hôte, ça peut être un accès à un espace spa, ça peut être un partenariat local avec d'autres personnes autour de l'hébergement. Je prends l'exemple, un fleuriste qui a dit « moi j'offrirai un bouquet de fleurs », j'ai une photographe qui a dit « moi j'offrirai un petit shooting photo ». Enfin voilà, il y a plein de partenaires locaux qui se greffent aux hébergements pour offrir eux aussi un petit plus dont les femmes peuvent bénéficier pendant le séjour. En fait.
Cette association a une dimension nationale. Les hébergeuses solidaires, aujourd'hui, ce sont presque 150 hébergements dans toute la France. Vous êtes vous-même en Gironde. Est-ce que vous avez besoin de plus d'hébergements, Maïté ?
Oui, bien sûr qu'il nous en faut encore plus. L'objectif de l'asso, quand on l'a lancé, c'était de couvrir l'ensemble des départements de France pour une simple et bonne raison, c'est que quand on est malade, on n'a pas forcément l'envie ni la force de partir très loin de chez soi et on sait qu'on peut parfaitement déconnecté, même en étant à 30 minutes de la maison. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir couvrir l'ensemble des départements. On a effectivement quelques trous en France. On a le nord de la France, par exemple, où on n'a personne. Le plus haut, c'est l'Oise. Donc, dans le 59, dans le 62, on n'a personne. Dans l'Est, également, on a très peu d'hébergeuses qui se sont manifestées. Et puis, on peut même dire, par exemple, le Pays Basque et les Landes, c'est pareil, on n'a pas grand monde, alors que ce sont des régions très touristiques dans lesquelles il y a énormément d'hébergements. Et on a besoin de tout le monde pour faire savoir qu'on existe et qu'il est possible de nous rejoindre.
Qu'est-ce que ça apporte dans un parcours de soins, dites-moi, de prendre l'air, de partir un peu de chez soi ?
Alors, pour l'avoir vécu moi-même, le cancer, c'est une maladie qui a tendance à nous refermer un peu sur nous-mêmes. En général, quand on apprend, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et quand j'échange avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose, on est plutôt d'accord sur le sujet. Au départ, on est plutôt renfermé sur soi. Certaines se coupent même complètement des relations sociales et on a un peu peur de quitter sa maison. Pour autant, quand on est chez soi, on est pris dans ce cycle de la maladie avec les rendez-vous médicaux. Et puis, le cancer touche de plus en plus de femmes très jeunes qui sont épouses, qui sont mamans. Et on ne peut jamais déconnecter chez soi. Enfin, je veux dire, une femme, on connaît la charge mentale des femmes aujourd'hui. On sait que quand on est à la maison, il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à penser. Et donc, pouvoir quitter la maison, même si c'est à 15, 20, 30 minutes de chez soi, changer d'air, ne pas forcément avoir à penser à ce qu'on va faire à manger ce midi, ne pas penser à son agenda sur lequel on a inscrit tous les rendez-vous médicaux, c'est vraiment une bulle d'air extraordinaire. C'est une bulle d'air pour celle qui est dans le parcours de la maladie, mais ça l'est aussi pour ce qu'on appelle les aidants, parce qu'en fait, le parcours, il est tout aussi dur pour ceux qui gravitent autour de la personne malade. Et nous, nos séjours solidaires, ils bénéficient à ce qu'on a appelé les femmes au ruban, mais elles peuvent y aller avec les personnes de leur choix. Donc, elles peuvent partir avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis, leur maman, leur sœur, etc. Et ces séjours, ils apportent vraiment une bulle d'air à tout le monde. Et on a plusieurs femmes qui nous ont écrit des messages d'ailleurs en nous disant « Grâce à vous, j'ai osé sortir de chez moi, j'ai osé quitter mon canapé ». Il y a un vrai bienfait.
Je rappelle le nom de cette précieuse association, les Hébergeuses Solidaires. Merci beaucoup Maïté Belair.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
La Fondation de France, qui finance des initiatives partout dans le pays, nous signale régulièrement des pépites. En Savoie, elle attire notre attention sur Mountain Riders, association qui se bat contre les déchets en montagne, notamment. Bonjour Camille Régorez.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de cet asso qui est installé à Chambéry. Elle existe depuis 20 ans. Vous organisez des opérations de ramassage des déchets dans la nature avec l'ambition d'atteindre une montagne sans déchets sauvages en 2030. Est-ce que c'est un symbole, cette date de 2030, ou un réel objectif ?
C'est un réel objectif parce que on a aujourd'hui monté et identifié plusieurs leviers d'action qui nous permettraient d'atteindre cette ambition-là. Elle peut être symbolique quand on connaît le sujet des déchets à échelle planétaire et que effectivement les déchets sauvages qu'on retrouve en montagne sont une infime partie des déchets sauvages qui sont dans le milieu plutôt marin. Donc peut-être qu'à cet endroit-là, il y a du symbole. Toujours est-il que la montagne, c'est le début du cycle de l'eau et que pour nous, c'est un aujourd'hui des rares espaces naturels où on peut retrouver une nature vierge de déchets sauvages.
Quels sont les déchets sauvages que vous ramassez le plus en montagne ?
Alors, les choses sont assez équilibrées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ramasse autant de déchets qui sont issus des professionnels que de déchets issus plutôt de la pratique des activités sportives ou contemplatives, et du coup, qui vient plutôt des citoyens. Enfin, on a un déchet qu'on appelle déchet indicateur qui est très marquant et qui, en 20 ans, est toujours ce qu'on appelle un déchet persistant, qui est par exemple le mégot. On vient de clôturer notre campagne de l'année, là, et on a ramassé sur 17 tonnes de déchets au global 60 000 mégots sur près de 90 opérations de nettoyage.
Ça vous fait un peu enrager, si je puis dire, vous qui êtes engagé dans la lutte contre les déchets. Le mégot, c'est vraiment pas compliqué de ne pas le jeter dans la nature.
Oui, c'est pas compliqué de ne pas jeter un mouchoir, un emballage alimentaire. Oui, factuellement, ça peut être enrageant. La réalité, c'est qu'en fait, le mécanisme, il est plus complexe. Les comportements évoluent, mais ils évoluent lentement. Et que jeter un mégot dans la neige, bah pour certains, c'est encore un mégot qui disparaît, et pas nécessairement un mégot qui va avoir un impact sur la pollution de l'eau, la pollution des sols, un impact sur le milieu plus largement et aussi sur les espèces animales, végétales qui y vivent.
Vous parliez tout à l'heure de déchets professionnels. Est-ce que là aussi, vous avez quelques exemples ?
Oui, alors les déchets professionnels, en fonction des territoires, ils sont variables, mais ça peut être beaucoup de plastique lié à l'entretien, au chantier. Hein. Donc, on a plein de, enfin, différentes formes de plastique qu'on retrouve en masse, de la ferraille, des jalons. Enfin, voilà, ce type de déchets-là qu'on retrouve malgré tout encore. Et c'est ce qui nous amène à travailler avec des filières qui gèrent les domaines skiables, mais aussi les filières de fabricants qui conçoivent ces outils et ceux qui construisent, donc la filière typiquement du BTP.
Voilà, vos actions ne se résument pas à des ramassages de déchets sauvages. Vous allez aussi contacter toutes les filières et notamment les stations de ski. Votre association Mountain Riders remet des flocons verts, Camille Rigorez. Que récompense ce label ?
Oui, alors nous, on aime parler, et c'est important pour que nos regards changent aussi sur la montagne. On parle de territoire de montagne et non pas de station de ski. Parce que derrière les combats qu'on porte au travers du flocon vert, il y a un vrai enjeu de se dire comment on va pouvoir continuer de vivre sur nos territoires de montagne, comment on va pouvoir les habiter demain. Et ça, c'est un sujet fondamental, c'est-à-dire que le ski aujourd'hui, à sa place et fait partie de l'équation pour vivre en montagne, mais elle sera pas suffisante. Et donc, il y a un vrai enjeu de pouvoir accompagner les acteurs qui font ces territoires. Donc, c'est à la fois les élus, mais c'est aussi tous les professionnels de ces territoires-là. Et puis, les citoyens qui y vivent, à essayer de faire intelligence collective pour parvenir à dessiner des futurs, on va dire, qui soient peut-être plus justes et plus désirables pour nos territoires de montagne, qui sont des lieux de nature extraordinaires, qui sont évidemment à préserver, mais où l'enjeu du maintien de notre vie dans ces territoires-là est majeur.
Donc c'est une manière de récompenser les territoires qui réfléchissent à un avenir sans ski, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est une démarche labellisante qui permet à des territoires qui ont envie de réfléchir, mais surtout d'agir, à essayer de progresser pour mettre en place des actions pérennes et qui répondent aux enjeux de transition de ces territoires-là. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que nos territoires vivent, pour certains d'entre eux, encore très très bien de cette dynamique touristique hivernale, et que le changement, on observe qu'il opère facilement quand on est dans une nécessité d'agir vite, et que quand tout va bien, et finalement, c'est compliqué de se mettre à l'action.
De quoi votre association a-t-elle besoin aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a besoin de soutien pour se mobiliser sur les opérations de ramassage. On a besoin aussi de faire passer nos messages de sensibilisation auprès de la jeunesse. Donc, on a aussi besoin de bénévoles pour pouvoir agir à nos côtés. Et puis, on a besoin aussi d'être entendu à une échelle peut-être politique plus large, et qu'aujourd'hui, on ait un gouvernement qui prenne des décisions fortes et ambitieuses sur les enjeux de nos territoires de montagne.
Beaucoup de monde mobilisé sur les ramassages de déchets ?
Oui, on a environ cette année-là, ce printemps et cet été, 4500 volontaires qui se sont mobilisés sur ces opérations. Donc je crois qu'en plus, la vertu de ces opérations permet vraiment aux personnes qui le souhaitent, en tout cas, d'agir très concrètement et de façon visible, c'est-à-dire que notre action, elle a un impact immédiat. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on en a besoin aussi pour garder l'envie d'agir. Et puis, on fait ça collectivement. Et donc, je crois qu'il y a aussi un vrai enjeu d'être dans des moments qui soient collectifs et joyeux. En tout cas, c'est ce en quoi on croit chez Mountain Riders, et ces opérations le permettent.
Voilà, Mountain Riders, association basée à Chambéry. Merci beaucoup, Camille Rigorez.
Merci.
Et bonne journée. Au revoir. Je remercie l'équipe des Carnets de campagne, Sophie Hoffmann qui prépare cette émission avec l'aide de Jade Bellag, Guillaume Roux à la technique aujourd'hui. Sachez qu'on s'intéressera bientôt aux initiatives dans les Pyrénées, Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées précisément, du côté de Pau et de Tarbes. Donc, vous pouvez nous écrire pour signaler des gens géniaux dans ces deux départements.